Le débat du jour, Vincent Souriau.
Bonsoir à tous. Benoît Hamon, première ligne, vainqueur de la primaire élargie du Parti Socialiste face à Manuel Valls. Il sera officiellement désigné candidat à la présidentielle dimanche. Et ce n'est que le début du chemin. Il y a bien sûr la campagne qui s'annonce face à la droite et à l'extrême droite. Mais d'abord, le rassemblement. Unifier la gauche après les dissensions du quinquennat Hollande, la bataille menée par les frondeurs, la gauche du PS face à ce que l'on appelle la social-démocratie. Peut-on réconcilier en quelques mois ces deux franges que tout oppose ? C'est le débat du jour. Bienvenue à tous.
RFI.
Nos deux invités, Frédéric Savicky, professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Et Gilles Candard, historien des gauches françaises, auteur notamment d'une histoire des gauches en France parue aux éditions La Découverte, bonsoir à vous.
Bonsoir.
On va commencer par les chiffres de la primaire, messieurs, plus de 2 millions de votants, 58% pour Benoît Hamon au second tour, 41% pour Manuel Valls. Est-ce que cette addition, chiffre de participation et large victoire de Benoît Hamon, lui donne un mandat clair pour rassembler son camp ? Frédéric Savicky, Gilles Condard.
Écoutez, je veux bien commencer. Un mandat clair, oui. La participation de 2 millions, c'est 300 000, 350 000 électeurs de plus qu'au premier tour. Derrière ça, il y a 60% pratiquement de suffrage en faveur de Benoît Hamon. Donc c'est incontestablement, effectivement, quand même, je dirais un score qui n'est pas étriqué. Quand on regarde la carte électorale, on s'aperçoit que Benoît Hamon réussit quasiment dans tous les départements de France, sauf métropolitains, sauf 3 ou 4, à arriver en tête et souvent nettement en tête. Donc là, il y a quand même un message politique clair. Alors évidemment, est-ce que derrière ça va être simple pour autant ? Non. D'abord parce que une partie, effectivement, on l'a vu dès hier soir, encore aujourd'hui, de soutien de Manuel Valls ou éventuellement de gens qui n'ont pas suivi ni l'un ni l'autre, qui exigent de Benoît Hamon finalement des inflexions programmatiques. C'est compliqué aussi parce qu'évidemment il va falloir faire à la fois avec Mélenchon et évidemment peut-être Yannick Jadot avec lequel serait plus simple, mais surtout avec Emmanuel Macron. Donc rien n'est simple. J'allais dire que les ennuis, pour rester poli, commencent pour Benoît Hamon. Le chemin qui le mène jusqu'au premier tour va être pavé de tout sauf de roses. Mais c'est quand même un bon début et c'est plutôt évidemment un résultat encourageant pour lui malgré tout, qui lui donne une certaine crédibilité et une certaine légitimité.
Alors Gilles Candard, rassembler, en quelques mots, rassembler la gauche, qu'est-ce que ça veut dire, puisque c'est le maître mot ces temps-ci ?
Bien, je crois qu'une des situations particulières de la France, c'est qu'on a très rarement eu de parti extrêmement dominant à gauche. C'est une situation qu'on trouve dans d'autres pays européens, en Angleterre, en Allemagne, ailleurs aussi. Mais en France, on a beau dire, il y a eu une bonne époque du Parti Socialiste, peut-être après la victoire de 81, peut-être quelques moments comme cela. Mais historiquement, la France a toujours été un pays très partagé. C'était radicaux, socialistes, après socialistes, communistes, radicaux, une partie à trois. Aujourd'hui, le Parti Socialiste est peut-être toujours, ce sera à vérifier, le premier des partis de gauche, mais il existe quand même toute une gauche qui ne se reconnaît pas dans le Parti Socialiste. Alors, sur sa gauche, d'une certaine manière, avec le Parti Communiste, les Insoumis, les écologistes, et aussi, parfois, sur sa droite, avec les radicaux de gauche, qui ont quand même aussi...
Voix au chapitre. Et qui étaient participants à la primaire,
Participaient à la primaire, et qui semblent marquer quelques réserves, là. Et puis, effectivement, un certain nombre, disons, soit d'une partie du Parti Socialiste, soit aussi tout un secteur qui se reconnaît pas forcément dans le Parti Socialiste, mais qui pourrait voter à gauche, et qui, actuellement, se reconnaît dans la candidature de Macron. Donc, effectivement... Toute la difficulté maintenant pour Hamon et ses amis vont être de réussir à avoir un programme qui permette au moins d'envisager des alliances politiques à gauche, alors sans doute peut-être pas dès le premier tour effectivement de la présidentielle, mais il y aura aussi législative, il y aura aussi disons la suite du parcours, et puis ça compte beaucoup aussi de savoir dans quel climat la présidentielle est abordée, même avec plusieurs candidats de gauche, ce qui finalement a été le cas qu'on a connu avec les différentes le plus souvent dans les élections présidentielles. Il est important pour le candidat qui veut apparaître comme soit vainqueur, soit battu de peu, ensuite un peu, disons, la référence de la gauche, il est important pour lui de pouvoir terminer, disons, avec des relations normales, je dirais, avec les autres partis de gauche. Ce qu'avait essayé de faire Martine Aubry, d'ailleurs, en son temps, même si elle n'avait pas été candidate à la présidentielle, mais quand elle était à la tête du PS.
Avant de poursuivre, quelques mots de Benoît Hamon, justement. C'était tout à l'heure, à la sortie de son entretien à Matignon, avec le Premier ministre Bernard Cazeneuve.
Je maintiendrai le cap de ce que j'ai dit. Il n'y a pas un programme pour les primaires et un programme pour les présidentielles et on en changerait, ce qui serait absolument absurde. Évidemment que je m'enrichirais des contributions des uns et des autres. Je l'ai dit, je revendique un nous et dans ce nous, j'englobe évidemment la place éminente qui est celle de ceux qui n'ont pas forcément choisi ma candidature, ni au premier ni au second tour, mais qui aujourd'hui auront une place évidemment éminente dans le rassemblement que je souhaite opérer.
Frédéric Savickisson prend ses propos à l'inverse. A contrario, s'ils s'abstiennent, si ces sociodémocrates, disons la frange valsiste du Parti Socialiste, abstient de soutenir Benoît Hamon, est-ce que c'est la catastrophe assurée, comme on le dit?
Ça dépend de qui on parle. Si on parle des électeurs ou si on parle éventuellement...
Ben là, on parle plutôt de l'appareil du,
voilà,
du PS.
Quand on regarde ce qui s'est passé à cette primaire, on voit que Manuel Valls bénéficiait du soutien le plus important en matière d'élus et de députés, et que bon, au bout du compte, force est de constater que ça a sans doute permis qu'il ne soit pas humilié, mais que ça n'a évidemment pas suffi pour lui à être élu. C'est gênant, c'est pas forcément, je dirais, catastrophique sur le plan du résultat. Ce qui est catastrophique, en revanche, ce qui serait catastrophique, c'est que ces autres élus qui ne veulent pas le soutenir soutiennent Emmanuel Macron. Alors là, évidemment, on entrerait dans une logique de rupture, voire de scission du parti.
Non, mais est-ce que c'est pas symbolique, puisqu'on dit souvent que finalement, les appels à voter pour tel ou tel venant des élus ou des cadres des partis politiques ne sont plus entendus aujourd'hui?
Alors, ils sont plus entendus, ça dépend, ça peut faire la différence, je dirais, de façon à la marge, hein, mais ça peut effectivement servir à des candidats outsiders qui se disent, écoutez, moi je ne suis pas soutenu, je ne suis pas un candidat de l'appareil, je suis un candidat qui vient de la base, qui est porté par des sympathisants, par des mouvements sociaux, etc. C'est un peu ce que joue Emmanuel Macron, et dans lequel il risque d'être d'ailleurs pris au piège, à mesure qu'il collecte comme ça des soutiens plutôt d'élus, plutôt installés. Donc c'est un équilibre fragile à trouver. Ce qui est important, effectivement, quand même, pour réussir une élection présidentielle, c'est d'avoir un parti unifié, au moins symboliquement. Il est clair que le Parti Socialiste ne peut pas se payer le luxe d'une espèce de pré-congrès pendant l'élection présidentielle où les gens se déchireraient, les uns disant, écoutez-moi, finalement, je vais réfléchir, je vais peut-être soutenir Macron, j'attends de voir les sondages, finalement, je ne prends pas position. Là, ce serait effectivement un drame, parce que ça serait évidemment utilisé par les adversaires pour dire, regardez, ce candidat, en fait, il n'a pas le soutien qu'il prétend avoir. Donc c'est une vraie interrogation. Évidemment, les sondages vont jouer un rôle, c'est-à-dire si dans les semaines qui viennent, eh bien, il apparaît que Benoît Hamon est très distancé, très loin de d'Emmanuel Macron, ça peut conduire un certain nombre à changer de position. Mais en même temps, pour les acteurs politiques et pour les élus, pour les responsables, la politique s'arrête pas à l'élection présidentielle. Il y a des élections législatives, il y a ensuite évidemment des possibilité de reconstruire un parti victorieux pour conquérir de nouvelles positions. Il y a beaucoup de gens qui pensent à l'élection présidentielle d'après, à l'élection législative, à l'élection municipale, etc. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense quand même qu'on ne devrait pas assister à un raz-de-marée ou à une scission du Parti Socialiste. Cela m'étonnerait beaucoup d'ailleurs, quand on regarde le résultat de la primaire, 60-40, je pense qu'il y a un certain nombre de députés qui pourraient être tentés, par exemple, de suivre Emmanuel Macron, qui vont peut-être réfléchir à deux fois en disant « Oh là là, attention quand même, hein, est-ce que mes électeurs, si je joue le jeu d'un candidat centriste qui tend la main à la droite, qui est soutenu par le président du CNPF ou à la main, est-ce que je ne vais pas avoir un retour de bâton et perdre de toute façon ?» Donc, je pense que pour toutes ces raisons, il y aura pas de scission du Parti Socialiste pendant cette période. Mais effectivement, la question, c'est est-ce qu'il y aura une mobilisation générale derrière Hamon ? Et ça, je pense que ça dépendra beaucoup, effectivement, de la dynamique qui va se dégager de l'élection primaire. Est-ce que Benoît Hamon va être capable, effectivement, par exemple, d'obtenir le ralliement des écologistes qui retireraient leur candidat? Est-ce que dans les semaines qui viennent, l'électorat de Mélenchon, les communistes, par exemple, se détournent de Jean-Luc Mélenchon avec lesquels il y a quand même pas mal de contentieux. Est-ce qu'une partie des gens qui étaient tentés par Macron ne vont pas se dire qu'après tout, ce jeune candidat original, dynamique, c'est peut-être pas plus mal que ce haut fonctionnaire passé dans la finance, qui a un discours assez flou et qui va sans doute refaire la même politique qu'il a menée, peut-être même en pire, sous François Hollande. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là laissent le jeu, me semble-t-il, encore très ouvert.
Gilles Combard, qu'est-ce qui s'est passé pour que Manuel Valls parle, il y a quelque temps, de deux gauches irréconciliables? Est-ce que c'est nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a déjà été le cas dans le passé, vous qui êtes historien des gauches?
Des débats ou des divisions à gauche, c'est sûr que ça ne manque pas. Hein. On a eu Mitterrand-Rocard, Mollet-Mendès-France, ou de Fer.
Des motions de censure votées par le groupe socialiste à l'Assemblée?
Il n'y a pas eu de motion de censure, d'ailleurs, votée par le groupe socialiste à l'Assemblée, puisque les frondeurs n'ont pas réussi
à mener
à aller jusqu'à la motion de censure.
Mais ils ont quand même essayé de la mettre en place.
Ils ont quand même, oui, à un moment. Non, mais il y avait des divergences graves à l'intérieur de la gauche sur la politique menée, ça c'est certain. Mais
ce que je essaie de comprendre, c'est si ça a déjà été aussi profond, et est-ce que quand Hamon parle de rassemblement,
ça a déjà été bien plus profond que
je dirais que c'était parfois plus grave, parce que là, il me semble, mais je dirais même d'ailleurs en allant jusqu'au front de gauche. Au fond, intellectuellement, la manière de considérer la société et le chemin d'une gauche de transformation sociale, écologiste et autres, il y a des différences qui sont réelles. Et certainement, ça sera pas simple de fédérer tout le monde. Mais enfin, intellectuellement, le cadre conceptuel me paraît quand même plus cohérent, enfin moins disparate que ce qu'il y était il y a encore une trentaine d'années. Il n'y a plus le modèle soviétique.
C'est ça, il n'y a plus de révolution. C'est pas Benoît Hamon, c'est pas quelqu'un avec le fusil entre les dents.
Non seulement Benoît Hamon, mais même Jean-Luc Mélenchon. C'est aussi un ancien ministre socialiste, quelque part. Hein. Donc, combatif, sincère, fougueux, etc., qui dit pas la même chose que Hamon, évidemment. Mais disons, on n'a pas l'impression d'avoir vraiment deux personnalités entièrement irréconciliables quand on voit Mélenchon et Hamon.
Il faut rappeler par exemple que la proposition de revenu universel que porte Benoît Hamon, c'est une proposition qu'on retrouve également aujourd'hui chez des libéraux particulièrement hostiles à toute forme d'aide sociale. Donc c'est pas l'équivalent de la mise en place d'un système de nationalisation de la moitié de l'économie française ou de la mise en place d'une planification qui viendrait organiser la production ou de la fermeture des frontières sous des formes de contrôle d'échange ou autre. C'est-à-dire qu'on est vraiment là dans des niveaux de différence politiques qui sont beaucoup moins importantes qu'elles ne l'ont été dans le passé au sein de la gauche.
Par exemple, avec la guerre d'Algérie ou le problème du colonialisme ou de la guerre et de la paix, disons, dans les années 30, il y avait parfois des débats qui tenaient plus à l'avenir du pays, à l'avenir de l'humanité, qui étaient vraiment très très prégnants. On ne voyait pas très bien comment on pouvait concilier des positions contradictoires. Là, il semblerait tout de même que ça devrait être possible. Il me semble que Hamon n'est pas forcément le plus mal placé par sa culture de parti. Hein. On lui a reproché
d'être un apparatchik.
D'être un apparatchik, c'est pas entièrement faux. Mais en même temps, ça fait tout de même un peu le représentant, je dirais, d'un parti socialiste. Si le parti socialiste existe encore, c'est ce que nous allons voir, je pense, très très prochainement. Eh bien, il pourrait trouver le moyen à la fois, disons, de le rassembler et de retrouver la possibilité de parler avec les écologistes, les communistes et les partisans de Jean-Luc Mélenchon. Hein, ce qui semblait ne plus être tellement possible dans les derniers temps du quinquennat. Donc, je suis raisonnablement optimiste pour les chances de la gauche, peut-être pas effectivement pour l'emporter à la présidentielle, mais pour retrouver en tout cas la possibilité de construire un nouveau dispositif, disons, d'une gauche qui réussira à se parler, à passer les compromis ou trouver des points d'accord entre eux.
Moi, j'ajouterais une chose, c'est que si on sort un petit peu le nez de la situation française et on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Europe et même aux États-Unis avec, vous l'avez vu, la percée qu'avait fait Bernie Sanders. Aujourd'hui, par exemple, au Portugal, vous avez un parti socialiste qui gouverne, qui pendant des années avait refusé toute forme d'union de la gauche et qui s'est allié avec des anciens communistes, des écologistes et qui en plus obtient des succès politique non négligeable. Vous avez aujourd'hui une vraie crise, par exemple, de beaucoup de partis sociaux-démocrates en Europe. En Allemagne, le SPD va très probablement reperdre les élections législatives au profit d'Angela Merkel parce qu'il refuse effectivement, alors que sur le papier, il y a une majorité, une union avec Die Linke et les Verts. Vous avez en Belgique aujourd'hui, notamment en Wallonie, la montée d'un parti de gauche qui affaiblit considérablement l'hégémonie du Parti socialiste au point que le dirigeant Paul Magnette a été obligé de s'opposer au TAFTA parce qu'il a c'est pas parce qu'il serait idéologiquement convaincu et qu'il aurait changé, c'est parce que tout simplement il est menacé sur sa gauche. Donc on a aujourd'hui, on pourrait dire, un épuisement quand même des recettes social-libérales. Beaucoup de partis socialistes et sociaux-démocrates se rendent compte que c'est une impasse, au moins en tout cas politique et électorale, et même d'ailleurs sur le plan des résultats économiques. Et donc moi j'aurais tendance à me dire, bon, c'est peut-être un petit peu trop tôt, Hamon avec un certain nombre de propositions brusques peut-être un petit peu les choses, mais en même temps, je pense que d'un certain point de vue, il est peut-être en avance aussi sur l'évolution de la gauche en Europe aujourd'hui, qui va, à mon avis, être beaucoup plus distancié, disons, par rapport aux recettes libérales, parce que vous parliez de social-démocratie. Moi, je crois que là, il faut parler quand même de social-libéralisme. Alors, on peut en discuter, en gloser, mais enfin, la social-démocratie, historiquement, c'est pas le retrait de l'État. Hein. C'est pas l'ouverture de toutes des pans entiers de l'économie au marché. Hein. Donc, c'est pas ça. Donc, moi,
c'est la protection sociale.
C'est la protection sociale. Donc, je pense que là-dessus, évidemment, on peut gloser sur est-ce que le revenu universel est applicable ou pas, mais il dresse, pour dire, un constat et il fixe un cap. Il ne dit pas qu'on va faire ça demain, bien entendu. Et ça mérite effectivement de... Ben, je crois que c'est un certain nombre d'électeurs qui ont trouvé ça positif, effectivement, de ouvrir l'horizon, quoi. C'est pas la gestion au jour le jour en fonction des paramètres imposés par Bruxelles qui, comme chacun sait, sont arbitraires. Ce qui était d'ailleurs aussi la critique que faisait Arnaud Montebourg. Donc là-dessus, il y a clairement, effectivement, un renouveau, on pourrait dire, de la gauche.
C'est ce que Hamon appelle l'avenir désirable. C'est les mots qu'il met en avant dans ses discours.
Le futur désirable, oui. Et même au Portugal, l'Alliance réussit à concerner, Alliance implicite, même le Parti communiste portugais, qui est pourtant en principe beaucoup plus à gauche, entre guillemets, que le Parti communiste français, parce qu'il n'est même pas dans la gauche européenne, un parti resté très, très ancien, très archaïque, et pourtant, les Portugais ont réussi à trouver un accord possible à gauche. Et on voit bien d'ailleurs qu'en Espagne, actuellement, le Parti socialiste comme Podemos sont tous les deux en crise, discutent, mais que dans l'horizon de quelques années, c'est que l'un et l'autre vont être obligés aussi de se parler et de se retrouver de chemin. Même sur le plan des collectivités locales, ils gouvernent déjà ensemble.
En quelques mots, parce qu'il nous reste malheureusement très peu de temps, on a appris là il y a quelques minutes que François Hollande allait recevoir Benoît Hamon à l'Élysée jeudi. Est-ce que lui peut servir d'arbitre dans ce fameux rassemblement? Est-ce qu'il peut encore servir à ce genre de choses?
Je pense d'abord, symboliquement, c'est important pour Benoît Hamon. C'est une façon de reconnaître à la fois sa victoire et de reconnaître que le président prend acte de l'élection. Je ne sais pas si François Hollande ira plus loin, mais ça symbolise quand même une reconnaissance. C'est-à-dire, ça veut dire que à tous ceux qui seraient éventuellement tentés de monnayer leur soutien à Benoît Hamon ou pire encore, soutenir Emmanuel Macron, que voilà, alors sauf si dans deux semaines François Hollande devait accueillir Emmanuel Macron à l'Élysée, mais je ne le pense pas. Donc je pense quand même que c'est le minimum qu'il peut faire. Je ne sais pas s'il aura l'intention de faire plus, et je ne sais même pas si Benoît Hamon a intérêt ou veut que François Hollande s'engage davantage. Je pense que, mais c'est quand même très très important. C'est une manière de prendre acte du choix des électeurs de gauche et de reconnaître la victoire de celui qui l'a emporté nettement.
D'autant que Hamon a été ministre pendant plusieurs années du président Hollande. Il ne faut pas non plus le présenter comme quelqu'un de totalement étranger à la culture de gouvernement et aux compromis parfois nécessaires avec d'autres fractions plus modérées.
Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Gilles Kandar, historien des gauches françaises, auteur notamment de cette histoire des gauches en France parue aux éditions La Découverte. Et merci à vous également Frédéric Savicky, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Un grand merci aussi à Quentin Bresson qui a réalisé cette émission.